Moi, je lisais déjà des livres sur le bouddhisme, c'est philosophie qui m'intéressait. Ensuite, avec quelques recherches sur la ville de Tours, là, je me suis rapproché d'un centre où j'ai été fort bien accueilli et je suis resté. Voilà.
Alors, pour ma part, en fait, moi, je faisais plutôt de la méditation dans mon coin. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre d'être toute seule dans mon coin. Donc, j'ai cherché où je pourrais bien partager ces moments de méditation. Et j'ai trouvé donc cette association qui propose donc des méditations, soit laïques, soit rituelles, en fonction des vœux de chacun.
Est-ce qu'on peut du coup maintenant présenter un peu l'association? Est-ce que vous pouvez évidemment le faire parce que moi je ne la connaissais pas. L'association donc DAC Beautour, est-ce que...
C'est DACPO.
DACPO,
Voilà.
vous faites bien de me reprendre. Eh ben j'avais mis un B. Ah là là, je suis
C'est un
incorrigible.
P.
DACPO Tour. Alors première question, qu'est-ce que ça signifie DACPO Tour? Est-ce que ça a une signification, j'imagine, en quelle langue d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
C'est le nom d'une vallée tibétaine.
Dakpo, pardon,
Dakpo.
nom d'une vallée tibétaine.
Et donc de la région de laquelle vient Milarepa, qui est un des enseignants, des maîtres tibétains, et qui est le chef spirituel de notre lignée, de la lignée, des Kagyu.
Oui, parce qu'il y a plusieurs lignées aussi
Voilà.
dans le bouddhisme,
Voilà.
faut le souligner, il faut le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a plu dans le bouddhisme et pourquoi finalement, alors vous l'avez expliqué et pourquoi vous avez rejoint ce groupe, mais qu'est-ce qui vous a plu dans cette religion? Alors on aura le débat plus tard à savoir si le bouddhisme est une religion ou un art de vivre, évidemment. C'est pour la deuxième partie de l'interview, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a plu dans cette façon de voir les choses?
Ben, il y avait le rapport aux autres, dans le bouddhisme, c'est toujours un rapport aux autres qui est totalement pacifié et qui est dans la bienveillance, donc c'est des choses importantes. Et puis c'est vrai que les lectures bouddhistes, en ce qui me concerne, m'apaisaient, quoi. Vraiment un sentiment d'apaisement après avoir lu. C'est ça que j'ai rejoint ce groupe. Va essayer de continuer.
Ouais, alors si on essaie d'élargir, en fait, le bouddhisme, ça, c'est, on prend cette voie spirituelle en fonction de nos propres questionnements ou de nos propres intérêts, on va dire, personnels. Il y a à la fois, moi j'y suis venu via la méditation, Stéphane, lui c'est plutôt la philosophie. Voilà, donc il y a des axes d'entrée qui sont divers et propres aux personnes. Et nous, on tient vraiment à dire que il faut la réduire à une religion, ça serait une erreur, quoi. Et
Ça serait réducteur du
ce
coup.
serait vraiment effectivement réducteur, quoi. C'est pas que ça.
C'est au-delà de ça,
Voilà, parce qu'on est effectivement après. Alors, qu'est-ce qui nous plaît? Moi, ce qui me plaît aussi dans le, bah, c'est ce qu'a dit Stéphane, hein, c'est ça nous aide à, ça nous fait réfléchir à notre relation au monde, aux autres et à nous-mêmes. Et
oui,
moi, je
d'accord.
sais que ça m'apporte à des réponses, à des valeurs, à des questionnements intimes. Et à des valeurs qui pourraient sembler des fois dans notre monde actuel un peu, je dirais, voire cuculapraline, hein, la générosité, l'équanimité, la patience, voilà, dans un monde tourné vers un capitalisme et une matérialité, hein, c'est pas évident. Et je
Oui.
trouve que ça me répond. Moi, je sais que c'est effectivement apaisant. Où là, il y a vraiment qui est l'humain qui est placé au centre de notre questionnement. Et voilà.
Oui, c'est de la remise en question finalement par rapport à notre mode de vie aussi, vous l'avez évoqué, en tout cas dans votre cas,
Ouais.
mais ça peut l'être pour plein d'autres choses et des choses en tout cas très spirituelles aussi. Et c'est ce qui diffère peut-être le bouddhisme d'autres religions, quoique évidemment il y a de la spiritualité dans toutes les religions et d'autres formes de façon de voir les choses.
Alors.
C'est une philosophie, une religion qui est très pratique dans le sens où nous, enfin, il est conseillé de la mettre en œuvre dans la vie de tous les jours, de garder une relation apaisée au monde et aux gens, même si on est dans un monde des fois qui peut être paraître ou qui est très agressif.
Voilà. Je sais que moi, il y avait un de nos membres de l'association qui avait parlé une fois de philosophie appliquée. Je trouve que c'est vraiment une très belle expression. Voilà. Moi, ça me paraît tout à fait juste.
Pour décrire le bouddhisme, finalement, une philosophie qui est appliquée à la vraie vie.
Voilà, à notre réalité, à notre quotidien.
Justement, est-ce qu'on peut revenir sur l'association? Est-ce que vous pouvez me parler des autres membres de l'association, s'ils sont eux aussi bouddhistes ou alors plutôt des gens qui aiment bien la méditation? Quel genre de personnes avez-vous au sein de l'association Dakpo Tour?
Ben, on a justement les...
Très bien.
Beaucoup de types de personnes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont adhérents et qui viennent juste pour méditer, des fois depuis des années, et qui sont des fois même, comment dire, qui donnent beaucoup de coups de main à l'association, mais sans avoir franchi le cap de devenir bouddhiste. Donc ces gens-là, voilà, sont accueillis par les autres. Et ça permet, voilà, eux, d'avoir d'être dans une méditation qui, je pense, est à la fois de bien-être et très légèrement spirituelle. Ils ont aussi accès, bien sûr, à la bibliothèque, donc ils peuvent commencer à lire les enseignements du Bouddha, des livres de manière plus généraux, écrits par Mathieu Ricard, par exemple, et peut-être un jour franchir le pas, mais voilà, il n'y a jamais de... On ne demande pas aux gens de devenir bouddhistes pour être adhérents de l'association ou venir essayer la méditation.
Qu'est-ce qu'il faut pour devenir bouddhiste? Est-ce qu'il y a des rites d'initiation au bouddhisme où on devient en adoptant une certaine philosophie de vie?
Alors, on devient pas bouddhiste. Hein.
C'est soit comment, on l'est pas.
Non mais c'est pas une il y a pas quelque chose de la baguette magique. Alors dans l'idée, c'est effectivement il y a à la base quand même si on peut parler d'un travail, il y a peut-être une volonté d'une transformation d'un soi pour aller vers un équilibre ou une libération. Voilà. Si effectivement on veut accéder à une pratique, des pratiques ritualisées, là effectivement, ça demande de prendre refuge. Voilà, c'est alors rapidement la prise de refuge, c'est on va dire si on compare à une autre religion, chez les catholiques c'est un peu un baptême, mais en fait c'est ça signifie qu'on se connecte à...
C'est une connexion au Bouddha, une connexion aux enseignements du Bouddha, et une connexion à ce qu'on appelle le Sangha, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques bouddhistes.
Voilà.
Et après, on ne demande pas de faire des choses en particulier, vous pouvez ne jamais revenir au centre après avoir pris refuge, ou au contraire, à ce moment-là, recevoir plus d'enseignements pour comprendre, comprendre les enseignements du Bouddha et cheminer tout doucement vers l'éveil.
Vous parlez, à juste titre, des enseignements du Bouddha. Alors... j'ai fait des petites recherches historiques. Le Bouddha, en fait, finalement, c'est le chef spirituel, ou en tout cas celui qui est à l'origine du bouddhisme traditionnel. Il est né moins 6e siècle avant Jésus-Christ, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et en fait, Bouddha signifie l'éveillé. Et donc, son nom, évidemment, son nom classique, je dirais, il s'appelait Siddhartha Gautama. Et en fait, c'est lui, et d'ailleurs, chose assez troublante, il était issu d'un milieu très aisé, et il s'est rendu compte de la misère des gens à l'époque, et il a essayé de changer de voie, en tout cas spirituellement. Et c'est lui qui est à l'origine donc, du bouddhisme, et c'est lui qu'on surnomme Bouddha. Alors l'éveillé, il y a la notion d'éveil spirituel dans le bouddhisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un éveil spirituel?
Alors...
Est-ce que c'est la phase ultime, finalement, du bouddhisme?
Voilà.
C'est ce vers quoi on tend.
C'est quelqu'un qui a réalisé la nature profonde de son esprit, donc la nature de ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Siddhartha qui devient Bouddha après avoir pris en compte la souffrance des êtres, toute sa globalité, et avoir décidé de comprendre d'où venait cette souffrance et comment on pouvait en sortir. Et à partir du moment où il a compris comment on pouvait sortir de la souffrance, on va dire c'est l'éveil. C'est très raccourci. Hein.
Alors, l'éveil, c'est... Oui, effectivement, vous l'avez dit, j'étais en train de lire mes notes, là. C'est la réalisation de soi, communément associée donc, au bouddhisme, on l'a dit, mais aussi à l'hindouisme. Alors, c'est pas non plus spécifique au bouddhisme. Il faut aussi le signaler.
Alors, parce que là, c'est parce que Gautama était indien. On est d'accord. Et donc, en fait, ses enseignements, après, se sont diffusés dans toute l'Asie, et après sont passés aussi au Tibet. Hein. Mais on a effectivement, en fonction des personnes et de ces fidèles qui ont diffusé l'enseignement, il y a eu en fait des lignées qui se sont créées. Et donc c'est pour ça qu'on arrive, entre autres, à un bouddhisme, un hindouisme. On va avoir un bouddhisme différent en Chine, au Japon. Voilà.
C'est ce qui explique finalement les différentes branches et les différentes
mais
sortes de bouddhisme.
Finalement, on est sur les concepts sont les mêmes. Après, il y a des modes d'enseignement qui sont différents, il y a des interprétations qui peuvent être différentes. Voilà.
Mais le Bouddha, à l'origine, s'est tourné vers les religions hindouistes. Il a cherché, en fait, avec ce qu'il avait, on va dire, sur place, quoi. Et après avoir fait le tour de différentes choses, s'est aperçu qu'il avait besoin de, pas vraiment de créer, mais d'enseigner ce que lui avait compris de la véritable nature de l'esprit.
Et c'est pas lui qui a été, qui s'est dit éveillé. Ce sont les autres, ce sont ses disciples, c'est les personnes qui... ses auditeurs qui l'ont appelé l'être éveillé. Hein?
Comment on atteint justement cette phase d'éveil ? C'est très compliqué. Est-ce que vous l'avez atteint ? Ça vous fait rire.
C'est la question à 1000 euros.
Ouais, c'est la question à 1000 euros. Non, j'imagine qu'il y a un profond travail très long de travail sur soi, de travail spirituel, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moines, notamment tibétains, qui sont à ce stade ou quasiment à ce stade d'éveil ?
Alors, au stade d'éveil de Bouddha, disons que c'est... nous, on a... Alors oui, on a notre chef de lignée, donc qu'on appelle le Karmapa, qui on considère, que l'on considère être la personnification des qualités éveillées du Bouddha.
Du Bouddha.
Alors, voilà... Et donc, il a suivi, lui, depuis sa toute petite enfance, hein, les enseignements. Il a été reconnu déjà, hein, par les Tulku. Et puis, depuis sa toute petite enfance, il a suivi les enseignements, il a reçu les transmissions qui lui permettent...
C'est de réincarnation en réincarnation, voilà. C'est-à-dire il réactualise à chaque fois mieux son état... Son état de Bouddha, entre guillemets,
son état éveillé.
Ses qualités, quoi.
Le chef aujourd'hui du bouddhisme, en tout cas, c'est le Dalai Lama. Enfin, le chef, c'est peut-être un gros mot, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez me parler de son rôle à lui, le Dalai Lama ? Est-ce que c'est un peu le pape du bouddhisme ? C'est celui qui représente finalement cet art de vivre et cette religion à l'international, non ?
Oui, c'est le plus connu, donc c'est lui qui représenterait le bouddhisme de manière générale. Après, il est d'une lignée qui n'est pas de notre lignée et n'a pas d'emprise sur les autres lignées, quoi. Mais c'est vrai que c'est la personne la plus connue de par son parcours, hein. Ça, c'est évident. Oui.
Mmh. Et puis de sa qualité d'homme aussi.
Oui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un aussi d'engagé, on en reparlera plutôt tout à l'heure. En revanche, est-ce que vous pouvez me parler de ce terme de lama ? Parce que c'est un mot qui revient assez fréquemment dans le bouddhisme. Qu'est-ce qui signifie finalement le mot lama ?
C'est l'enseignant. Alors il y a plusieurs significations. On peut avoir, les maîtres sont toujours dits lama, comme le Dalai Lama évidemment, avec souvent le terme de Rinpoche pour les Tibétains qui va signifier vraiment le maître. Et le mot lama aussi a une signification d'enseignant. C'est-à-dire qu'on a en France, on a la chance d'avoir des lamas qui sont des occidentaux, qui ont fait des deux retraites de 3 ans, et ensuite ont été nommés lamas par des maîtres, donc qui sont des enseignants.
Voilà, à partir du moment où ils prennent des vœux. Voilà.
Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, dans ce qui vous amène aussi aujourd'hui, il y a une conférence, pardon, vendredi prochain, donc le 1er décembre, sur le bouddhisme. Est-ce une philosophie, un art de vivre ou une religion? Et ça sera fait par un lama, lama Rapsang, c'est ça, je me trompe pas. Donc, du coup, c'est un enseignant, en fait.
Lama Rapsang a fait deux retraites de 3 ans. Voilà. Au monastère du Bost en Auvergne. Et voilà, donc maintenant, il dédie sa vie aux enseignements. Voilà.
Tout simplement.
Non, mais, et c'est quelqu'un qui est riche d'expérience. Il a vécu aussi en Inde. Voilà, quoi. Il a suivi un peu les pas de Shakyamuni.
Alors, avant de parler de tout ça plus profondément, on va faire une pause musicale, mais j'ai une dernière petite question. Mm-hmm. L'association d'Akpotour, c'est un KTT, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce que signifient ces trois lettres KTT?
Ça veut dire Karma Teksun Sholing, qui signifie lieu d'enseignement.
Voilà. Centre de méditation et d'enseignement du bouddhisme.
Ça, c'est commun à toutes les structures bouddhistes? Elles sont toutes KTT ou c'est un label, en fait?
Non, c'est pas un label, c'est le nom. C'est un... Ouais, on aurait pu garder... C'est le terme tibétain.
D'accord.
C'était le vœu du 16e Karmapa, en fait, de créer des centres urbains de diffusion des enseignements du Bouddha et des lieux où les gens peuvent aussi venir méditer.
C'est l'heure du quiz. Je vous avais proposé un quiz, Stéphane et Véronique. Je mets le jingle et je vous pose quelques petites questions. C'est parti.
Aïe, aïe.
Alors évidemment, sans surprise, c'est un quiz sur le bouddhisme. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question?
Allons-y.
Parti.
Alors... On parlait tout à l'heure du Dalai Lama. Est-ce que vous pouvez me dire quand il a été intronisé chef spirituel des Tibétains? Donc Dalai Lama, en fait.
Très très jeune.
Effectivement, alors justement, c'est très jeune.
Je crois qu'il avait 4 ans.
Ouais, mais c'est quelle année, c'est ça?
Alors, à 4 ans, effectivement, il avait déjà été initié, mais officiellement, c'est le 17 novembre 1950. Il avait 15 ans à ce moment-là. Puisqu'il est né en 1935. Et d'ailleurs, il faut rajouter que le Dalai Lama s'appelle dans la vraie vie, je dirais, Tenzin Gyatso. Gyatso, je ne sais pas si je
prononce ça. Océan de sagesse.
D'accord.
C'était la question? Non.
Non, mais vous avez raison de préciser. Deuxième question. Toujours sur le Dalai Lama. Il a été prix Nobel de la paix. Est-ce que vous pouvez me dire l'année?
1989.
Bravo, bonne réponse. 1989, effectivement. Le Dalai Lama, prix Nobel de la paix. Troisième question, est-ce que vous savez... Alors là, c'est une question très piège. Le nombre de bouddhistes dans le monde? Ou en tout cas, d'affiliés au bouddhisme?
Ah tiens, ben, je sais pas...
254 millions.
500 millions?
Eh, c'est pas loin. C'est autour des 500-600 millions. Alors en fait, ce chiffre est très aléatoire. C'est estimé entre 300 millions et 1,5 milliard de personnes. C'est très très large pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà différents courants. Et il y a aussi beaucoup de gens qui se disent bouddhistes sans pour autant pratiquer de façon religieuse, etc. D'où le débat qu'on aura tout à l'heure, si c'est finalement une religion ou un art de vivre. Ouais. Mais on y reviendra. Quatrième question, est-ce que vous savez maintenant le nombre de bouddhistes en France?
Alors, il est estimé à 200 000 à peu près.
Ah, alors parce que moi j'ai un peu plus.
Ah.
Il me semble, selon les chiffres 2016, encore une fois, alors peut-être que ça a évolué évidemment, ils estimeraient à 600 000 bouddhistes et ce chiffre aurait triplé justement en 25 ans, l'espace de 25 ans. Donc ce qui correspondrait à peu près 200 000, mais il y a un moment. Est-ce qu'on... Je peux me tromper, hein,
oui,
mais mes sources sont peut-être pas si fiables que ça, il faudrait que je vérifie. Dernière question. Déjà, qui a dit « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
Ça pourrait être le Bouddha.
Et voilà, tout simplement, c'était question logique, c'est le Bouddha qui a dit ça. Mais c'est une citation intéressante, parce que est-ce que finalement la philosophie bouddhiste, c'est pas de se concentrer uniquement sur le présent en faisant abstraction de tous les problèmes finalement et tout ce qui a pu se passer avant ou après? Est-ce qu'on est dans ce contexte-là ou pas?
Un peu, parce que bon, le passé est passé, on n'y reviendra pas. Le futur, on peut pas le. On peut des fois anticiper, on peut penser qu'on va anticiper les choses, mais c'est très compliqué parce qu'on va toujours être, comment dire,
Dans des hypothèses.
ouais, dans des hypothèses, et tout sera lié à des causes et à des conditions qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est vrai qu'être dans le moment présent, c'est la meilleure chose, pour être bien déjà, et pour aussi, pouvoir, facilement, gérer, on va dire, n'importe quelle situation. Et avoir un discernement par rapport aux situations qui peuvent arriver.
Voilà, c'est ça. Je crois que là, faut être. C'est effectivement cette idée du moment présent. C'est à différencier de du consommable tout de suite. Hein. C'est pas ça non plus. Hein. On est sur le moment présent parce que il y a plein de choses qui se passent dans le moment présent et qu'effectivement, comme le disait Stéphane, de ces moments présents va aussi découler notre futur. Donc, il faut être pleinement conscient ou, tu vois, être en interaction avec ces moments présents. Ouais, de pas laisser passer ça.
C'est une sorte de bienveillance par rapport aux gens qui nous entourent aussi, quoi.
Aussi,
C'est
voilà.
être réellement là.
Voilà.
Ça se travaille, c'est
Et pas
pas.
de façon superficielle comme on pourrait en avoir
Voilà.
Comme on l'est tous, on va dire, de manière.
Oui,
Par facilité.
exemple tout bête, mais quand quelqu'un nous parle, parfois on est sur son téléphone, etc. C'est des exemples très concrets,
Même
évidemment,
sans le
c'était pas.
téléphone, on est déjà parti loin, des fois. Sur un mot, l'esprit est déjà
Ouais,
parti sur un seul mot,
et on
donc
pense à autre chose,
il faut
finalement.
revenir, voilà, sur la présence, quoi.
J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qu'on n'a pas abordé en première partie d'émission. Après, promis, on va faire ce fameux débat si le bouddhisme est un art de vivre ou une religion. Long débat, hein. Mais d'abord, est-ce qu'on peut parler des capacités, alors ça peut paraître étonnant, mais des capacités physiques des moines, parce qu'il y a cette légende un peu qui reste tenace dans l'esprit des gens, que les moines tibétains seraient un peu des surhommes, arriveraient à finalement déconnecter leur esprit de leur physique. Et d'ailleurs, c'est. Alors évidemment, c'est un autre débat, mais on le voit notamment des moines tibétains qui se sont immolés par le feu pour protester contre les répressions contre le Tibet. Ils restent stoïques à la douleur, c'est quand même assez
Bah,
impressionnant, non?
ils sont immolés par le feu, ils en sont morts, hein. On est.
Oui,
mais la
non, mais
déconnexion
je suis
d'esprit du
d'accord.
corps, elle existe de toute façon au
Je
moment
suis
de la.
d'accord, mais on est aussi d'accord que ces moines-là. Ils sont souvent assis en tailleur en train de méditer pendant cet acte-là, aussi barbare, aussi violent soit-il,
Ouais.
mais il n'y a pas un signe comment dire, de mal finalement, et c'est assez troublant de voir ça.
Ça concerne quelques personnes. C'est vrai que là, il y a un moment où, moment de la mort, l'esprit se sépare du corps sans aucun souci, ça on le sait. Et après, pour les moines, on peut imaginer que c'était des. On peut en tout cas espérer que c'était des gens suffisamment avancés pour être en méditation et ne pas du tout saisir la douleur. Enfin, on peut l'espérer pour eux en tout cas.
Et les moines aussi qui arrivent à. Alors, c'est peut-être un peu une
Les
légende qui
moines
a.
Shaolin,
Voilà,
ce genre de
exactement.
choses, on y est.
Je voulais exactement parler ça. Non, 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 mais.
Mais là, c'est après. Alors, nous, on fait pas ça déjà, mais on peut supposer qu'il y a aussi effectivement un entraînement déjà physique, hein, comme le disait Stéphane. Et puis, on est aussi sur. C'est pas le contrôle, hein, mais. Une espèce de maîtrise, effectivement, de soi et du fonctionnement de notre organisme. Donc, parce que le bouddhisme, c'est, si on le. Ce qui est assez étonnant quand on écoute les enseignements, et c'est dans ces enseignements qui sont très, très anciens, ça peut expliquer, ça explique en détail les infinis. La relation, notre fonctionnement humain. Notre fonctionnement humain. Et donc, je pense, hein, là, je m'aventure peut-être, mais dans certaines mesures, certains moines, eux, se sont certainement aussi intéressés au fonctionnement, mais vraiment dans le détail, au fonctionnement du corps humain. Hein, la médecine chinoise, voilà,
Oui,
c'est quand
c'est
même
tout un ensemble de choses.
c'est tout un ensemble de choses. Ouais, nous qui nous, enfin, nous on n'est pas forcément sur on n'est pas sur cet axe-là, en tout cas, quoi.
Alors, on va venir maintenant au sujet et à la conférence que vous organisez le vendredi 1er décembre. Une conférence qui s'appelle « Le bouddhisme, philosophie, art de vivre ou religion ?» Point d'interrogation.
C'est voilà, ça. C'est important ce point d'interrogation.
Voilà, hein. Ce point d'interrogation est important et elle sera faite et menée par le lama Rabsang, on l'a évoqué ouais. tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça va se passer ? Est-ce que c'est important déjà de faire une conférence sur ce sujet-là ? Est-ce que on est un peu, comment dire, est-ce qu'on manque de connaissances sur le bouddhisme en particulier et sur cette religion ?
C'est important parce que c'est vraiment un éternel débat qu'on a même nous au sein de l'association, hein, très, très, très régulièrement, parce que chacun a son approche, son histoire, et est arrivé dans le bouddhisme et dans l'association justement avec son histoire, et avec certaines envies et certaines projections. Donc c'est vrai qu'on a voulu, revenir justement sur un thème très général au niveau de cette conférence, et sur des choses qui intéressent les gens, parce que pour certains c'est une philosophie, pour d'autres c'est une religion. Et des fois, c'est peut-être bien d'aller écouter un lama, de en parler de manière très large, et peut-être aussi de changer son point de vue à ce moment-là. Quoi.
Oui, et puis en fait, ça fait aussi référence au livre de lama Jingme, le manuel des héros ordinaires, et qui introduit en fait hein, son livre aussi par cette question. Et c'est une question qui est effectivement... une question classique, hein, et comme l'a dit Stéphane, c'est parce qu'effectivement les gens, enfin les personnes peuvent aborder le bouddhisme par des voies différentes.
Alors il n'y aura pas que cette conférence pendant ce week-end-là, il y aura aussi samedi, donc le lendemain, une méditation sur le souffle, c'est ça ?
Ouais.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'enseignement,
ouais.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, comment ça va se passer ?
Alors, si je reprends rapidement pour la conférence, hein, c'est ça le Jacques Villeray le vendredi soir.
Effectivement, et, à 20h, c'est ça ?
À 20h. Et puis alors, la méditation sur le souffle, eh bien ça se passe dans au centre de méditation qui est rue Parmentier, à Tours Centre, hein, voilà. C'est ouvert à tous, voilà.
Gratuit, c'est à 11h.
Voilà.
Et là, l'intérêt, c'est d'avoir un lama, donc un enseignant formé qui va. On a des guides de méditation au sein de l'association, bien sûr. Là, voilà, on peut avoir des questions un peu plus compliquées et des réponses des fois plus précises aussi, évidemment, quoi. Donc, c'est des petites méditations qui durent pas plus de 5 minutes généralement. Et enfin, des fois, ça jusqu'à 15 plus. Par moment. On commence toujours par des petites méditations et surtout, il y a vraiment des temps questions-réponses que les gens, voilà, puissent découvrir avec. Déjà des bonnes, on va dire des bonnes pratiques.
La méditation, est-ce que vous pouvez me schématiser comment se passe un cours de méditation ? C'est peut-être pas un cours, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe un peu les moments de méditation ?
Alors, je vais te dire comment on fait nous au centre hein, de méditation. C'est simple. Alors, Donc les gens viennent, s'installent, on a des coussins, on peut s'installer aussi sur des chaises. Et puis tu as un guide de méditation. Le guide de méditation, c'est celui qui va introduit par la parole la technique de la méditation. Donc voilà, on fait un petit texte d'introduction pour rappeler ce que c'est la méditation. Et puis après, on parle de la posture de méditation. Voilà, on donne les points de posture, les 7 points. Et puis, en fait, après, on explique tout simplement comment on va faire. C'est-à-dire, la méditation, quand on fait une méditation sur le support du souffle, on va se concentrer sur l'inspire et l'expire. Voilà. Mmh. Alors, il y a une première étape où on fait une session de méditation de à peu près 10 minutes sur... Simplement, on inspire et l'expire. Et puis, après, on fait une petite pause, on se détend. On va reprendre. Et là, on va faire plutôt une méditation en comptant les cycles de respiration. Et donc, on peut choisir un nombre. Soit un cycle de respiration, c'est un inspire, une expire. On commence toujours par l'expire. On fait le vide d'abord. Donc, une expire, un inspire. Et donc là, on compte des cycles. Alors, on peut s'arrêter à 9 cycles. On se dit, bon, je vais prendre la base de 9 cycles. d'inspire et d'expire. Et comme ça, on reprend à chaque fois. Une fois qu'on a atteint 9, par exemple, on reprend à 1. Alors pourquoi on compte ? Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est simplement qu'on s'aperçoit que dans la méditation, en fait, c'est là où quand tout le monde fait silence, ou quand nous-mêmes on fait silence à l'intérieur, là, il y a toutes les pensées qui défilent. C'est normal, hein, on est des êtres pensants. Donc notre esprit, il est tout le temps en train de penser, même à la mouche qui passe. Voilà. Donc en fait, soit se concentrer simplement sur le souffle, le va-et-vient du souffle, ou sur le comptage, ou alors si on choisit de se concentrer sur un petit caillou voilà, qu'on a choisi, ça va nous permettre de nous concentrer et de ne pas être trop embarqué par nos pensées. Et quand on s'aperçoit qu'on est embarqué dans nos pensées, eh bien on revient soit sur notre petit caillou, soit sur notre pensée. Et surtout, l'important, c'est de ne pas faire de commentaires sur nos propres divagations, c'est-à-dire « oh ». C'est pas de se dire « Oh mince, ça y est, je suis encore parti à penser à ça, à ça, à ça. » Parce que là, on fait encore des commentaires. Donc, on reprend. Et cette idée de la méditation, c'est effectivement de calmer l'esprit, de poser. Et si on le fait de façon régulière, ça a un intérêt que si on le fait de façon régulière, à un moment, les choses se posent, on est moins distrait par ses émotions, par les pensées qui passent, et ce calme va amener à plus de clarté, à plus de lucidité.